Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew et je suis accompagné de Lana. Bonjour Lana.
Bonjour.
Et nous accueillons aujourd'hui Sanae et Maxime, tous les deux bénévoles pour Paris et Ludique. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Nous allons commencer l'interview dans quelques instants, mais on commence traditionnellement par notre fil rouge. Alors pour les plus fidèles auditeurs, vous aurez dû remarquer que Sanae est déjà passée au micro, ou va peut-être passer au micro dans une future interview selon le calendrier de diffusion. Donc elle va skipper ce fil rouge et vous le retrouverez dans une autre interview. Par contre, Maxime, c'est à ton tour de passer au fil rouge.
D'accord.
Un petit fil rouge pour te découvrir. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Okay. C'est basé sur les jeux. T'es plutôt
d'accord.
Joueur. Ça devrait.
Ça devrait
être
aller.
Facile.
Après, des fois, j'oublie les noms des jeux, donc on verra bien.
Alors, mais... t'en prendras un autre. Okay.
Alors, ça sera un jeu dans le jeu. On devra deviner de quel tu parles en le décrivant.
Voilà. On va au montage. On va okay. Mélanger les réponses et ça sera aux auditeurs de retrouver à quoi ça correspond.
Ah bon. Non, mais... C'est rigolo, ouais.
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 Du coup, faites vraiment dire n'importe quoi aux gens, quoi.
C'est vrai.
Super. On prévient que c'est des bêtises.
Mais il y a que là. Alors Maxime, pour toi, quel est ton jeu Madeleine de Proust ?
Alors pour parler actualité, en ce moment ce serait plutôt du coup Descent, donc le dernier Descent, donc j'ai oublié la suite du nom, mais le dernier Descent.
Quel est ton genre de jeu préféré ?
Ça va dépendre des gens. Alors mon genre de jeu, ça va être le jeu coopératif, mais après ça va surtout dépendre de qui, avec qui je joue.
Et quel est ton jeu préféré dans ce genre ?
Ce serait, je pense, refaire une partie de Boréal. J'ai découvert ça hier et j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Peux-tu citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque et dont tu as honte ?
Fortune de mer.
Qui est un jeu...
Alors, c'est un jeu de pirate, c'est un jeu d'aventure. C'est comme ça qu'il faut le voir. Où l'objectif, c'est de vivre son aventure de pirate. Où des fois, on meurt, des fois, on survit. Et à la fin, il faut être le plus riche.
Tu pars pour 3 semaines et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Lequel prends-tu ?
Pingouin, je pense. C'est un jeu, je crois, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, où l'objectif, c'est qu'il y a des pingouins sur une banquise et il faut attraper des poissons.
Tu es invité pour une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Tu dois ramener un jeu. Lequel prends-tu ?
Encore une fois, ça va dépendre des joueurs. Donc si c'est quelqu'un qui est plutôt un gros joueur, je partirais plutôt sur un Spirit Island. Et si c'est quelqu'un qui n'est pas trop gros joueur, je partirais plutôt du coup sur un Sky Team, qui est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est plutôt très sympa.
Tu avais prévu un méga tournoi de Challenger à 8 et tous tes amis t'ont lâché. Vous vous retrouvez à 2. Tu sors quel jeu ?
Comme ça, je prendrais Snowboarding, qui est un jeu qui n'est pas très connu. Et je le prendrais parce que du coup, il y a une montée en compétences qui est plutôt intéressante où l'objectif, c'est d'être une compagnie aérienne qui va devoir emmener des passagers d'un point A à un point B. Et au fur et à mesure du jeu, l'avion va être de plus en plus grand et va aller de plus en plus vite, ce qui fait qu'on va pouvoir transporter de plus en plus de passagers et sur des plus grandes distances. Et donc, il y a une montée en compétences qui est plutôt intéressante pour un jeu coopératif.
Et quel jeu aurais-tu aimé inventer ?
Je prendrais un habit, je pense.
Pour finir, à quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de cette interview ?
Buffy contre les vampires, menace à Solinex. Voilà.
Ok, merci pour toutes ces réponses. Nous allons pouvoir commencer l'interview maintenant. On va commencer par une rapide présentation. Donc Sanae, on t'a déjà entendu ou on t'entendra peut-être dans une autre interview, mais tu es donc aussi au PEL, donc dans le service presse et communication, c'est ça ?
Exactement, oui. J'ai intégré l'équipe presse et communication il y a 2 ans, donc post-Covid. Et depuis, j'adore, donc je reviens d'année en année.
Et toi Maxime, donc tu es au CA du PEL et tu t'occupes de la partie logistique ?
Oui, c'est ça. Et donc, je suis arrivé à Paris Ludique, je pense, année 2 ou 3, je ne sais plus exactement.
D'accord, ça allait être une de mes questions, donc le PEL, ça a commencé quand ?
PEL 2011.
C'est quoi PEL, pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
Paris Ludique, c'est un festival de jeux de société à Paris en juillet. Et on accueille donc les festivaliers pendant le week-end, donc 2 jours. Là, on a commencé à accueillir aussi récemment le vendredi la presse. Donc c'est un vendredi pro et du coup on fait jouer en fait, le but c'est vraiment de faire jouer les joueurs, on a les jeux à volonté par exemple, donc il y a plein de boîtes et il suffit juste de prendre une boîte et puis les animateurs vont vous expliquer les règles.
Tu disais il y a le vendredi soir spécifiquement et dans le week-end c'est ouvert de quelle heure à quelle heure ?
C'est ouvert de 10h à 20h.
Donc pas de nocturne ou de...
Alors il y a des nocturnes qui existent mais pour les bénévoles et les pros.
D'accord.
Parce que l'objectif, c'est aussi derrière de créer un collectif et faut aussi qu'on puisse dormir.
Quoi ? Dormir dans un week-end jeu ? Mais c'est un truc qui se fait pas. C'est pas possible. Et donc, vous l'avez pas précisé, mais PEL a la particularité d'être en extérieur.
Oui.
Complètement donc à l'air libre, sous tente, au soleil, au vent ou à la pluie parfois peut-être. Vous avez la chance qu'au mois de juillet il fasse plutôt beau. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur le nombre de visiteurs justement sur le dernier PEL ?
Oui, exactement. On a 18 000 environ, on a plus de 18 000 festivaliers accueillis en 2023.
Et donc sur Paris Ludique, combien y a-t-il de bénévoles, d'éditeurs pour encadrer tout ça ?
On est plus environ 230 bénévoles et un peu moins de 200 éditeurs.
Et donc on va trouver tout type de stands. Vous disiez des stands où on va aller se servir en jeu pour jouer, style une médiathèque, et les stands d'éditeurs qui présentent leur jeu présent. On a aussi pu voir qu'il y avait des animations sur l'extrémité du PEL. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu tout ça ?
Pour les animations, on a par exemple le ring. Le ring, ça permet de se défier en duel. C'est des mini-jeux, en fait, qu'on propose. Ça dure, je sais même pas, une minute, cinq minutes.
C'est quelques minutes, effectivement. Oui. Et l'idée, c'est d'avoir une personne qui rentre sur le ring, qui se fait challenger. Et l'objectif, c'est de rester, c'est d'avoir le plus de victoires possible sur le ring. Et en fin de journée, en fonction, la personne qui a eu le plus de victoires remporte des lots.
D'accord, donc c'est des victoires sur des petits jeux connus.
C'est que des petits jeux, sachant que c'est la personne qui rentre sur le ring pour défier le gagnant en titre qui choisit le jeu.
D'autres animations, on a des tournois, on a des JDR, on a des jeux de rôle, on a les jeux délire, les jeux XXL, et du coup on adapte aussi des jeux en grandeur nature. Par exemple, on avait Hippoglouton.
Oui, nous, quand on était à la PEL, on est tombé sur un Hippoglouton où des gens étaient allongés sur des skateboards avec des caisses dans les mains. Ça surprend quand on n'est pas. Puis quand on les voit bouger, on dit mais c'est Hippoglouton.
C'est trop drôle. Venez jouer avec nous.
Mais c'est oui, donc ça effectivement, ça c'est les jeux délire où le principe de cette équipe, c'est le pion, c'est le joueur.
D'accord. Et ça a été détourné sur d'autres... Enfin, d'autres jeux ont été détournés de ce type-là ou...
On a fait d'autres tests aussi, Double. Je crois que Double, ouais. À un moment, on avait des grands... les grands ronds Double par terre et on avait testé. Après, je sais pas si on l'a vraiment proposé...
Non, en fait, donc, chaque année, on essaie de proposer des nouveaux jeux. Donc, effectivement, il y a eu... donc il y a eu les Hippogloutons qui avaient fait beaucoup de bruit, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit moins sur le festival parce que c'était il y a quelques années. On a eu Tokyo Train qui s'est fait, on a eu SOS Wistiti aussi qui a été présenté, et donc chaque année ils présentent des nouveaux jeux, donc là forcément j'en oublie et je vais me faire disputer. Mais
vous avez d'autres types d'animations ou de stands?
On a les jeux d'histoire. Donc les jeux d'histoire, c'est une équipe qui propose des jeux.
Alors du coup les jeux d'histoire, c'est le principe c'est plutôt des wargames, donc ça va être soit du jeu en hexagone, mais le principe c'est d'avoir des jeux dit historique, où on va faire de la reconstitution. Et il faut savoir qu'effectivement, Paris Ludique est l'un des seuls festivals de jeux, on va dire grand public, qui possède ce type d'activité. C'est pas très très courant, donc c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant. Après, bon, ça reste un milieu assez niche, donc il y a très peu d'éditeurs, et même il n'y a pas tant de bénévoles que ça, mais on arrive quand même à avoir une équipe de bénévoles qui sont assez motivés pour lancer cette activité, donc c'est plutôt cool.
On a également le fil rouge. En fait, il y a des pancartes affichées dans PEL, et il y a des petites questions et tout, et on a aussi des petits carnets. On avait fait plusieurs scénarios. Comme ça, du coup, ça permettait aux personnes de lire et d'aller chercher les réponses sur certains stands ou certains endroits. Donc ça, c'est préparé en amont du festival. Et on a également le coin des petits joueurs.
Les coins des petits joueurs, c'est pour les enfants.
Exactement, oui. Le coin des petits joueurs, c'est pour les enfants.
L'objectif, c'est vraiment que les enfants jouent avec les parents. Donc on a des animateurs qui sont là pour organiser ça. Et on va plutôt être sur tout ce qui est jeu d'éveil. Ou après, au niveau, pour recaler avec l'As d'Or, ce serait dans la partie enfant, les jeux les plus où on peut jouer en étant le moins âgé, quoi. Donc voilà, typiquement Attrape-Rêve, ce genre de choses, on va pouvoir les retrouver vraiment sur des jeux, sur des premières mécaniques.
Ce n'est pas une garderie, il me semble que vous avez des affiches incroyables pour rappeler ce fait.
Oui, c'est qu'on a eu peut-être pas mal d'accidents par le passé, on a eu beaucoup de soucis d'enfants où les parents n'étaient plus à proximité.
Oui, je crois qu'il y avait une des affiches que j'avais bien aimé qui disait tout enfant laissé sans surveillance se verra offrir un Red Bull et un petit chiot.
Donc effectivement c'est des affiches qui étaient créées qui ont été créées à l'époque, et oui, c'était vraiment pour rappeler que mine de rien, à chaque fois ça prend beaucoup de temps aux bénévoles de retrouver les parents, donc si on peut éviter, c'est toujours mieux.
Oui, et puis en cas de risque d'accident ou autre, voilà, c'est toujours mieux que les enfants soient surveillés de toute façon.
Ouais, puis ça génère du stress pour tout le monde, aussi bien pour l'enfant que les bénévoles, que pour les parents. C'est pas...
Les affiches étaient très drôles.
Oui,
oui, on est d'accord.
On cherchait les affiches pour prendre des photos parce que chacune était tout aussi rigolote que l'autre. Donc on a une collection de photos. Si vous les avez plus, je peux vous en donner.
Ça fera plaisir à celui qui a créé toutes ces affiches.
Et donc, il y a aussi l'espace jeux de demain, je crois.
Oui, on a également les jeux de demain. Donc, c'est des prototypes qui sont envoyés à l'équipe JDD. Ils les testent. Il y a une sélection. Et ensuite, donc, il y a tout un grand stand quand vous arrivez. Et les joueurs peuvent tester le jeu et voter pour le jeu qu'ils ont préféré. Et après, il y a un top 3. Voilà. Et chaque année, il y a les jeux de demain.
Et c'est donc les mêmes jeux qui sont présentés tout au long du week-end.
Oui.
C'est pas comme si on compare au off qu'on peut avoir à Cannes, ça tourne pas. C'est vraiment les mêmes jeux sur tout le week-end.
Non, oui. Ils ont été sélectionnés en amont. Voilà. Les candidatures ont été étudiées.
Ouais, il y a un vrai travail des bénévoles tout au long de l'année sur ça, où ils vont relire toutes les règles, ils vont sélectionner les jeux qui semblent le plus intéressants. Et après, du coup, l'édition de Paris Ludique, ils vont aussi, pour certains, accompagner les auteurs afin qu'ils puissent être édités. Donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir eu des jeux édités, dont certains, il y a le logo Paris Ludique, donc c'est plutôt cool. Et après, en amont de tout ça, il y a aussi, ils essayent aussi d'organiser donc des game jams afin d'avoir des prix spéciaux pour Paris Ludique.
Et donc tu le disais, oui, il y a beaucoup de bénévoles pour encadrer tout ça. On sait qu'il y en a aussi à la restauration, à l'entrée. Donc tu parlais tout à l'heure 230. Ça, j'imagine que ça tourne. Est-ce que vous en cherchez régulièrement ou est-ce que c'est les mêmes qui reviennent d'une manifestation sur l'autre?
Alors, de mon constat, en tout cas, il y en a beaucoup qui reviennent d'une manifestation à une autre parce qu'on est vraiment choyé et chouchouté à Paris à Ludique. Et j'ai adoré l'accueil, en fait. L'accueil qui nous est donné et vraiment le suivi pendant tout le festival, c'est-à-dire que on peut se reposer, il y a tout un coin bien-être, des massages, enfin vraiment plein de choses. Et ensuite oui bien sûr on recrute des nouveaux passionnés qui sont libres et intéressés pour nous aider parce qu'il y a toujours plein de choses à faire.
Mais il faut être joueur, du coup, pour être bénévole ou...
Non, pas du tout. D'ailleurs, dans mon entourage, j'ai des personnes qui jouent plus ponctuellement. Et moi, je joue beaucoup. Mais ils adorent l'ambiance, en fait, qui est dégagée. Et du coup, c'est un grand melting pot. Il y a des joueurs qui sont plus ponctuels, des joueurs beaucoup plus réguliers, des accros comme moi. Mais on s'entend très bien. Et justement, il y a tellement de tâches variées qu'on peut toujours s'y retrouver. Quand on vient, on n'est pas obligé d'être animateur. On peut être à l'accueil, on peut être, je sais pas, on peut être à la buvette, on peut être à plein d'autres endroits.
À partir de quel âge on peut être bénévole ?
Alors, on demande d'être majeur parce que c'est plus simple. Et après, l'idée, c'est aussi de créer une association donc autour du festival. Donc, c'est pour ça que tout au long de l'année, il y a des rencontres qui sont faites entre anciens et prétendants bénévoles. Parce que c'est des personnes qui seraient intéressées. Quand ils nous contactent, généralement, nous, derrière, on profite d'une soirée jeu ou autre pour les faire venir, discuter avec eux, leur présenter le festival, voir dans quelle équipe ils pourraient le mieux s'intégrer. Donc c'est aussi pour ça que par rapport à d'autres festivals, on a peu de bénévoles. Mais voilà, on essaye de faire beaucoup de choses autour de ça.
200 bénévoles, c'est beau déjà.
Par rapport à d'autres festivals, notamment j'ai en tête l'Alchimie de Toulouse ou l'Usine Nord, où ils sont beaucoup plus...
Et les bénévoles donc sont choyés, peuvent aller se reposer. Ils réservent sur des créneaux où ils s'engagent à faire telle ou telle fonction. Ça fonctionne comment ?
J'ai l'impression que ça dépend un peu des équipes, parce que selon l'équipe, c'est un peu différent peut-être. Mais en tout cas, dans l'équipe Presse.com, on se relaye et tout pour que chacun puisse quand même avoir des temps de pause, en fait, parce qu'on est à l'accueil pour accueillir la presse, la com. Et du coup, on est debout, en fait. Si au bout de 2 heures quelqu'un a mal aux pieds ou est fatigué, bien sûr on va dire va faire un tour au coin des bénévoles, repose-toi, prends-toi une petite crêpe, un truc à boire et reviens après. Oui. Après j'ai pas la vision vraiment de toutes les équipes, mais voilà.
Toutes les équipes fonctionnent un peu comme ça. Après c'est le principe du bénévolat, c'est qu'on va avoir des bénévoles où des fois on est même obligé d'aller les voir pour leur dire faut que tu prennes une pause.
Ah oui, tout à fait, je suis témoin.
Mais c'est aussi qu'il faut que ça reste un plaisir, parce que quand on est bénévole, le salaire c'est se faire plaisir.
Et faire plaisir à ceux qui viennent participer.
Oui, c'est exactement ça.
Tu parlais de prendre une petite crêpe. peut-être parler de la restauration sur Paris et Ludique. C'est compliqué.
Il y a deux types de restauration à Paris Ludique. Il y a la restauration pour les bénévoles, donc qui se passe à l'espace bénévole, où là, effectivement, c'est les bénévoles et les pros qui peuvent y avoir accès, et encore les pros n'ont pas accès à tout. Et après, il y a effectivement la partie qui est donc pour les visiteurs, où là, il y a un énorme snack qui est organisé. Après, oui, le principe, c'est que le festival ne peut pas nourrir tout le monde. Donc c'est aussi ça qui génère des queues. Donc nous, on incite les visiteurs soit à venir avec leur sandwich, soit après, on est quand même au cœur de Paris. Donc autour, il y a quand même pas mal d'offres de restauration ou de boulangerie. Donc il est possible de trouver à manger, mais je sais que c'est un point sur lequel on est souvent critiqué.
Est-ce qu'il est possible de sortir et de re-rentrer dans le festival sans problème?
Il est possible de ressortir et de re-rentrer parce que comme vous achetez un pass pour le week-end, donc forcément le samedi soir quand vous rentrez chez vous pour aller dormir, le dimanche vous arrivez bien à re-rentrer.
Donc oui, effectivement, donc faut anticiper, soit venir acheter son sandwich étalé plus, pas y aller à midi pile, sinon vous êtes sûr d'être dans la queue,
oui, ou
soit sortir, trouver une autre solution.
Ou faire comme à Cannes, c'est-à-dire qu'après être aussi en décalé quand on va chercher son repas, enfin, c'est un peu comme dans tous les festivals.
Et pour avoir participé à la logistique pour préparer tout ce qui était nécessaire en bouffe et en boisson, c'est vraiment énorme en fait. On va chez Métro et c'est marrant, on a de grands caddies et tout, j'avais jamais fait ça de ma vie et j'étais là en mode ah oui, ça se passe comme ça en fait.
Et ça, c'est que pour les bénévoles et les pros.
On peut rebondir justement sur la partie logistique puisque je crois que c'est ton créneau, Maxime, c'est toi qui t'organises un petit peu.
Alors, ouais, on va dire que je pilote, après on est nombreux à faire ça, je peux pas m'accorder tout le mérite et c'est même pas l'objectif parce que j'aurais jamais le temps de tout faire en réalité. Quelle est ta question?
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation parce qu'il y a quand même quelques tentes, quelques matériels à amener, des tables, des chaises, comment ça se passe? Est-ce que la ville vous aide sur ce sujet? Est-ce que vous êtes en autonomie?
Donc là, il y a beaucoup de questions, donc je vais répondre étape par étape. Désolé s'il y a un effet tunnel. Donc on a déjà une première partie qui est, donc il y a toute une organisation qui se passe. Donc nous, on organise à peu près les festivals un an à l'avance parce que on a des autorisations à obtenir, on a du matériel à réserver, à commander, donc on a quand même pas mal de choses là-dessus. Ensuite, on arrive le dimanche avant le festival. Le dimanche, on s'occupe de faire tout ce qui est tracé, parce que comme on est totalement en extérieur, il faut qu'on amène tout, le plan qu'on a défini, il faut qu'on le mette du coup au sol, afin de faciliter après les équipes de montage. Puis à partir du lundi, il y a la clôture périmétrique du site qui est installée. C'est-à-dire que vous avez pu le voir si vous y êtes allé, il y a des barrières ERAS qui sont positionnées. Donc ça, c'est positionné le lundi. Le lundi, il y a également une partie du matériel qui commence à arriver. Et ensuite, du mardi jusqu'au jeudi, il y a montage de tentes. Donc là, sur le pic, en termes de monteurs, on a à peu près 40 personnes qui sont des professionnels qui sont en train d'installer des chapiteaux. En parallèle, on a donc des tables et des chaises qui arrivent, qui sont aussi installées. Et à partir du jeudi, les bénévoles commencent à s'occuper de décorer le festival et de s'occuper de leur partie. Et donc ça dure jusqu'au vendredi matin. Et après, donc il y a le festival qui a lieu dans lequel il y a forcément des problématiques qui arrivent parce que tout ne fonctionne pas parfaitement. Et après, donc à partir du dimanche soir, une fois que les visiteurs sont partis, nous on fait rentrer donc les véhicules, on commence le démontage. Le démontage finit très tard, on continue le lundi et le mardi, les derniers Smirmorgs viennent pour récupérer le matériel. Donc en gros, ça dure à peu près 10 jours. Quoi.
Ouais, le lieu est complètement bloqué pour vous.
Pendant à peu près 10 jours pour 2 jours de festival.
D'accord. Et les éditeurs viennent s'installer, je pense, à partir du jeudi, comme tu disais.
À partir du jeudi, du vendredi, oui, c'est ça. Jeudi, vendredi, ça dépend. Si c'est des grosses structures, ce sera plutôt jeudi. Si c'est des petits éditeurs, ce sera plutôt le vendredi. Ça va dépendre de ça.
Vous avez des locaux en intérieur pour stocker des jeux, des choses comme ça, le temps avant le festival?
Alors effectivement, on a des lieux de stockage. Ouais. Donc on a plusieurs lieux de stockage. On a des lieux de stockage où donc on a des caves dans lesquelles effectivement sont rangées la ludothèque. Et après, on a aussi du stockage pour tout ce qui est chose dont on n'aura pas besoin durant l'année. Donc notamment, tout à l'heure, on parlait du Royaume d'Alice. Au Royaume d'Alice, on a acheté tout ce qui était mobilier donc pour les enfants. Parce que ça, c'est très cher à louer en réalité. Et donc ça, on le stocke toute l'année.
C'est du matériel que vous louez, pas qui est propre à l'association?
On a quelque chose qu'on possède, mais très peu. C'est-à-dire que tout ce que les éditeurs ont, on loue tout. C'est uniquement pour la partie bénévole où on a 2-3 trucs, mais ça reste assez anecdotique par rapport au gros du matériel. Typiquement, nous, on n'a pas de chapiteau et on n'a pas de table.
Juste pour préciser, donc les jeux que vous avez à disposition, c'est des jeux qui viennent d'associations ou c'est des jeux qui appartiennent à Paris Ludique ?
Les jeux, on les possède. Les jeux, il y en a une partie qu'on a achetée sur nos fonds propres, une partie qui nous ont été offerts par les éditeurs. Et après, donc sur ces jeux, on a tendance à faire un roulement pour avoir une ludothèque qui fait à peu près 600 et 800 boîtes, parce qu'on a aussi des problématiques de stockage derrière à ça, lié à ça. Et après, ces jeux, on les utilise lors des rencontres bénévoles où il y a une sélection donc, dans cette ludothèque qui vient sur les différents lieux où on se réunit afin de faire jouer les bénévoles.
Et les bénévoles ont les jeux un peu en avance pour apprendre les règles
ou... Alors oui, effectivement, donc ça c'est la partie jeu à volonté. Ils se réunissent tout au long de l'année, ils connaissent les jeux, certains de façon possèdent les jeux chez eux. Et l'idée c'est qu'ils se réunissent régulièrement afin de connaître les jeux le jour J. C'est le problème des grosses ludothèques comme ça, c'est qu'il y a toujours des jeux où s'il y a une ou deux personnes qui les connaissent, bon bah après soit les joueurs ont envie de lire les règles pour apprendre à jouer, soit il faudra qu'ils soient patients.
Est-ce qu'il y a un travail de partenariat avec les éditeurs pour récupérer des jeux et les proposer aux festivaliers ?
Oui, alors ce qu'on a fait il y a pas l'année dernière, il y a 2 ans, sur les réseaux sociaux, on faisait gagner des boîtes. En gros, les boutiques qui sont présentes à PEL ont proposé de faire gagner des boîtes. Et le concours, du coup, c'était un concours sur les réseaux sociaux. C'était liker notre page et vous pouvez participer à notre tombola. Donc, il y avait plusieurs jeux de plusieurs boutiques. Et du coup, les boutiques nous ont proposé des boîtes de jeux à offrir. Et nous, on proposait aux festivaliers qui gagnent la tombola l'entrée du coup à PEL en même temps, puisqu'il vient récupérer sa boîte à PEL.
Et chose peu commune dans les festivals, c'est la tente à jeux d'occasion. Les gens peuvent revendre leurs jeux sur le PEL.
Oui, quand on arrive à droite, il y a une tente où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. Et donc, n'hésitez pas à passer justement pour dénicher les jeux.
Tout le monde peut vendre ses jeux dans cette tente ? Comment ça se passe ?
Non, en fait, cette tente, ça appartient... ça fait partie un peu des partenariats historiques qu'on a au niveau de Paris Ludique. Donc, c'est une personne qui est également présente sur Ocaséo, qui venait... Et en fait, nous, on souhaite aujourd'hui conserver cette activité parce que c'est du jeu d'Oca, donc ça rentre pas en concurrence avec les différents éditeurs. Et derrière, ça permet aussi d'avoir accès en fait à des jeux qui en soi ne sont plus édités. Donc, moi, je trouve ça intéressant.
On a parlé pas mal bénévoles. On peut peut-être parler si on se met du côté exposant. Comment on fait pour participer à PEL ?
Oui, bien sûr, on a une boîte mail, donc exposant@parisetludique.fr. N'hésitez pas à nous contacter par ce biais. Et il suffit en fait que vous ayez Du coup, que vous êtes dans les jeux de société pour pouvoir candidater.
D'accord, et je pense qu'il faut le faire assez tôt quand même à l'avance, vu que vous préparez...
Après, il faut le faire tôt. Après, il faut savoir que nous, au niveau de Paris Ludique, on a quand même une volonté, et donc ça, c'est une volonté qui est assez forte, c'est que chaque espace fasse jouer.
D'accord, vous ne trouverez pas de vendeurs, de figurines
Chaque année, on a 2 ou 3 boutiques qui sont présentes sur le festival, mais on limite le nombre de boutiques, pour la simple bonne raison qu'à la base, c'est un festival qui est en plein air où on joue.
Festival en plein air, du coup, on n'a pas dit où ça se situait, c'est Pelouse de Reuilly, c'est ça ? Dans le 12e arrondissement ?
Exactement.
Et donc on va peut-être maintenant parler un petit peu de l'actualité malheureuse de cette année, puisque faute de JO, je crois que vous avez annoncé il y a quelques jours que l'édition 2024 n'aura pas lieu.
C'est ça, donc on a annoncé effectivement il y a à peu près une semaine que l'édition 2024 n'aurait pas lieu. On a annoncé ça à ce moment-là parce qu'on s'était donné comme date limite Cannes. C'est-à-dire qu'on voulait à Cannes savoir si on était en capacité ou non d'organiser le festival. Il faut savoir que on a commencé l'organisation de Paris Ludique 2024 en janvier 23 parce qu'on savait qu'on risquait d'avoir des problèmes sur la disponibilité du site. On a visité pas mal de sites annexes et aucun pouvait nous accueillir dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y avait trop de contraintes logistiques qui étaient associées à chacun des sites. Donc on a préféré annuler l'édition. Donc on est tous un peu déçus parce que bon, ça reste. On est une association. L'objectif c'est de faire un festival où on se réunit une fois par an pour faire le festival et donc cette année ça n'aura pas lieu.
Même sur des lieux fermés, même en changeant le concept, vous avez imaginé plein de solutions possibles.
Encore une fois, cette année, il y a les JO, ce qui fait qu'on a visité des sites qui étaient en intérieur, d'autres sites qui étaient intérieur-extérieur, d'autres sites totalement en extérieur. Alors sur certains sites, on n'avait tout simplement pas le budget. pour d'autres sites, c'était les contraintes en termes de logistique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de point électrique, voire il n'y avait pas de point d'eau. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en bonbonne d'eau. Enfin, ça devenait un peu trop complexe pour essayer d'organiser, voire même après certains sites qui sont ouverts aux quatre vents. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une clôture périmétrique tout autour. Et ça, enfin, ça encore une fois, c'est des choses en plus. Et comme on fait ça de manière bénévolat, à un moment donné, ça devient vraiment un travail. Enfin,
oui, plus le monde qu'il y aura sur Paris à cette période-là aussi, qui peut compliquer les choses d'éventuels visiteurs qui ne pourraient pas trouver de logement peut-être, ou à des coûts exorbitants.
Alors ça, c'était ça. Le deuxième aspect, c'est qu'il y avait certains éditeurs qui étaient un peu inquiets du fait que cette année, tout le monde est au courant que Paris Ludique, sur Paris, il y a une grande augmentation du prix des hôtels ou du prix des Airbnb. Donc oui, financièrement, ça devenait un peu compliqué pour tout le monde. Donc c'est un peu toutes ces raisons qui ont motivé le choix de dire cette année on le fait pas. Après là-dessus, la mairie nous a accompagnés jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'eux souhaitaient qu'on soit présent, contrairement à ce qui a pu être dit. Non, la mairie avait une volonté forte qu'on puisse maintenir l'événement, mais c'était pas. Enfin, c'est nous qui avons pris la décision de ne pas le réaliser.
Ok, comment vous imaginez donc cette année, parce qu'il va falloir continuer à motiver les bénévoles pour que l'année prochaine il y ait une édition, on l'attend. Qu'est-ce que vous mettez en place au moins pour l'association ?
C'est là que la communication va être un grand sujet, je pense, jusqu'à le prochain festival Paris Ludique 2025. On a plein d'idées dans l'équipe, mais pour l'instant on en est encore au stade où il y a encore beaucoup d'ateliers à monter, enfin beaucoup de réunions avant de prendre une décision, donc on est en brainstorming et ça va venir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on va être actifs, on a prévu plein de choses.
Oui, après il y a aussi le fait que le temps qu'on essayait d'organiser l'édition 2024, on n'envisageait pas nécessairement de pas la faire, même si on avait des grosses craintes là-dessus. Donc on a évité aussi de trop développer de plan B, de si on faisait pas. Bref, c'est comme ça.
On a concentré notre énergie dessus et du coup on concentre notre énergie pour que les personnes restent motivées pour 2025.
Et donc justement, votre présence à Cannes, c'est en simple visiteur, en recruteur, en repérage? Qu'est-ce que vous y faites quand vous venez dans un salon comme ça?
Alors on vient principalement pour jouer et voir les potes.
Le mot jouer revient beaucoup dans cette interview.
Un festival comme PEL, c'est énorme, il y a beaucoup de monde, beaucoup de logistique. D'un point de vue budgétaire, ça doit être conséquent.
Alors oui, c'est conséquent. Après, on est un festival qui est 100% bénévole, donc c'est moins conséquent que si c'était professionnel. Après oui, en termes de budget, c'est des budgets qui n'ont pas forcément trop de sens ramener à l'individu. On n'aime pas trop en parler. Après, tout ce qu'il faut savoir, c'est que suite au Covid, les caisses de l'association étaient presque vides. Donc la mairie nous a pas mal accompagnés dans ce sens-là pour que du coup le festival puisse continuer. Parce qu'il y a une vraie question à savoir s'il fallait l'arrêter ou non. Aujourd'hui, notamment grâce... aux engagements des éditeurs, l'association va mieux. Et c'est ce qui nous a permis notamment de faire plus de choses d'un point de vue logistique. Pour ceux qui étaient présents cette année à Paris Ludique, vous avez pu voir que les tentes étaient un peu de meilleure qualité, en tout cas pour une grande partie du festival. On va continuer à travailler dans ce sens-là, parce que ça limite aussi les risques en cas d'intempéries. Mais oui, aujourd'hui, c'est une association qui... On n'a pas une grosse trésorerie, quoi. Même si tout le monde imagine qu'on se fait beaucoup d'argent, on a beaucoup de dépenses.
Justement, en termes d'intempéries, donc... Chaque fois qu'on était à PEL, il faisait beau et chaud, voire trop chaud. Vous avez eu des années comme ça de tempête, de pluie ou...
Oui, alors ça, il n'y a que les anciens qui s'en souviennent. Ça doit être les années 2 ou 3 où effectivement, il y a eu un Paris Ludique quasiment sous la pluie. Donc à l'époque, on n'était pas encore sur la pelouse. On était au Boulodrome du 12e. Donc c'était aujourd'hui, donc on s'étend à peu près sur 3 hectares. Là, à l'époque, c'était moins d'un hectare et on se disait le jour où on le remplira, ce sera génial. Et effectivement, c'était sous la pluie. Donc le démontage avait été très très compliqué. Et cette année, ça s'est pas trop vu, mais il a plu le samedi matin. Une chance qu'en fait on avait terminé l'installation, parce que sinon les bénévoles auraient tous été trempés à l'ouverture du festival. Donc,
quand il a plu, ça avait affecté la présence de visiteurs ?
Pas spécialement. Non.
Ouais, ça avait quand même
marché. Non. En gros, nous, les plus grosses craintes, finalement, c'est quand la mairie annonce des plans canicules ou les gens quittent Paris, ou quand il y a des grèves de transport. C'est plutôt ça qui nous impacte. Après, c'est comme tout. Aujourd'hui, s'il pleuvait, ça aurait probablement plus d'impact parce que c'est comme tout. En fait, en grossissant, on s'ouvre à un public plus large. Et donc forcément, les familles auront peut-être moins tendance à venir s'il pleut.
La mairie a des droits de décision sur des annulations de festivals en cas de tempête, choses comme ça. C'est jamais arrivé.
Nous, il faut savoir qu'on est sur une occupation temporaire du domaine public. Donc c'est ce qui fait que la mairie peut nous demander la veille d'annuler le festival, parce que c'est le principe d'une occupation précaire.
Vous n'avez jamais subi ça?
On ne l'a jamais subi, normalement ça n'arrive jamais, parce que la mairie n'a aucun intérêt en fait à faire ça. Donc, en soi, ça n'a pas vocation à arriver, mais en tout cas, c'est le type de contrat qui nous permet d'occuper le terrain.
Parce qu'effectivement, il y avait eu la partie canicule où vous aviez réduit les horaires ou
Pour la partie canicule, on n'avait pas réduit les horaires. Par contre, effectivement, on avait beaucoup communiqué sur comment s'hydrater. Nous, on avait aussi fait pas mal d'investissements, enfin, d'investissements, de petits investissements, mais pour que des bénévoles, notamment l'équipe payante, se baladent à travers le festival, puissent, avec des brumisateurs afin d'arroser le public. Donc, ça avait fait rigoler tout le monde à l'époque parce que c'était marrant. Mais oui, après, ça avait été un peu dur quand même cette année-là.
La billetterie, c'est en avance ou c'est le jour J ?
La billetterie, c'est en avance. Je sais qu'il y a un grand rush dès que la billetterie est ouverte. Bah, nous, on est en train de speeder derrière et on se dit « Ah oui, il faut répondre et tout, c'est très urgent parce qu'on nous attend dessus. » Mais oui, c'est en avance. On peut acheter en avance les billets.
Et on peut aussi les acheter sur place. Mais c'est comme tout pour nous, d'un point de vue... en fait c'est plus pratique que les gens le commandent en avance, parce qu'au moins c'est un système informatique qui gère la chose, et au moins les bénévoles sont vraiment concentrés sur l'accueil du public et non sur l'aspect billetterie et encaissement.
Ça donne aussi une visibilité sur les personnes qui ont déjà pris.
Et les visiteurs attendront moins à l'entrée aussi s'ils ont déjà leur billet.
Oui, il y a eu un gros travail qui a été fait par l'équipe à l'accueil pour fluidifier l'entrée, il y a beaucoup de réflexions autour de ça pour que les gens puissent rentrer le plus vite possible dans le festival.
D'un point de vue sécurité, justement, qu'est-ce que vous mettez en place, des contrôles, des choses comme ça ?
On a une équipe on embauche une équipe de sécurité privée, donc ils sont présents aussi bien la journée que le soir. Donc la journée, ils sont là pour sécuriser le site, éviter les débordements, et le soir, ils sont là pour éviter les cambriolages ou ce genre de choses. Pour le moment, on n'a jamais eu de gros problèmes, tout va bien.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur lequel on n'aurait pas abordé ou... Non ?
Des anecdotes rigolotes qui sont arrivées aux bénévoles, aux festivaliers.
Dans les anecdotes, c'est rigolo et pas rigolo, mais on essaye chaque année d'avoir une équipe qui s'occupe des goodies. Et donc cette année, on était contents parce qu'on avait réussi à faire des magnettes, donc des jolies magnettes avec les affiches qu'on avait, qui étaient plutôt jolies. Et il y a eu un problème avec le transporteur, donc elles sont arrivées le lundi après le festival.
Oh là là.
Ouch.
Ah, moins rigolo, non ?
Donc des bénévoles ont essayé toute la journée du vendredi de savoir où était le colis pour éventuellement aller le rechercher. On n'a pas réussi. Donc c'était encore une tentative manquée, donc ça c'est toujours un peu dommage parce que c'est beaucoup d'engagement pour les bénévoles, les visiteurs le voient pas, mais c'est quand même présent.
Donc vous êtes venu à Cannes pour distribuer des magnettes?
Non, les bénévoles... on n'a même pas pensé en ramener.
Oui. Moi ce que j'aime bien c'est les verres en fait, les verres Paris et ludiques, parce que je savais pas mais ils changent en fait d'année en année, et parfois ça peut déterminer qui est le premier joueur, ou parfois c'est fun en fait.
D'accord.
Et en autre anecdote, c'est que j'ai découvert qu'il y a des festivaliers qui viennent d'année en année et qui collectionnent nos affiches Paris et ludiques.
Oh.
Je savais pas du tout, mais c'est trop cool je trouve.
Oui, nous on collectionne les verres dans les festivals aussi, effectivement. On va vous remercier, donc, Sana et Maxime, pour cette interview. Et on espère vous retrouver très vite sur la pelouse de Paris et Ludique.
Mais nous aussi, et merci.
Merci, merci à tous les deux.
Chères auditrices et chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout, jouez bien.